Week-end printanier samedi, nous voici au cinquième jour du confinement. Nous ne le vivons pas tous dans les mêmes conditions, c'est certain. Mais pour leur rester chez soi est, nous dit-on, la meilleure façon de sauver des vies. Dans cette deuxième heure du Téléphone Sonne, nous allons nous demander si ce confinement est bien appliqué, respecté, s'il suffit. On a beaucoup de questions, des débuts de polémiques sur la nécessité d'en faire plus, les masques, les tests, mais aussi sur la sévérité des contrôles et des mesures de coercition. Le téléphone sonne, vous posez vos questions. La deuxième heure, c'est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et avec nous, Olivier est en ligne. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir retenu ma question ou ma remarque. Alors, je vais être un peu iconoclaste, provocateur, enfin tout ce que vous voulez, mais je voudrais simplement vous dire que pour ce qui me concerne, le confinement, je ne le respecte pas, alors que je... Laissez-moi préciser le truc. C'est-à-dire, je sors avec une attestation qui est une vaste plaisanterie, avec ma pièce d'identité, et je vais me promener, etc., dans mon quartier, sachant que les rues sont désertes. Et tout ça, je le fais parce que j'aimerais bien, et je suis allé récemment dans un hôpital faire un don de plaquettes, j'ai discuté avec quelqu'un du SAMU, et je lui ai dit, imaginons que tous les deux soyons au supermarché, vous allez me dire, toi et moi, on se tient à 1,50 m de distance pour ne pas être contaminé, et vous allez m'expliquer pourquoi, si on marche dans la rue, chacun d'un côté du trottoir, on ne peut pas. Enfin, chacun d'un côté de la rue, expliquez-moi pourquoi je peux pas. Et la personne, effectivement, est infoutue de me le dire. Donc, si jamais j'étais arrêté par un flic, je lui tiendrais le même discours. Je veux bien que vous m'arrêtiez, vous me colliez une amende, mais je lui dirais, expliquez-moi cette contradiction. Donc, à cause de ça, je me dis que le confinement, je le respecte pas, et quand je rencontre des gens de mon quartier, bon, on discute, je reste à distance, on s'embrasse, on serre pas la main, mais voilà. Donc, maintenant, je peux comprendre, à ce moment-là, ce qu'il faudrait expliquer aux gens, c'est de leur dire, écoutez, continuez de vivre normalement. Maintenant, quand vous vous promenez dans la rue, faites comme si vous étiez au supermarché, et c'est tout. Et les gens pourraient se promener sur les plages, dans les forêts, etc., etc. Voilà.
Olivier, une question. Effectivement, c'est un témoignage. Je pense que vous n'êtes pas tout seul, et c'est pour ça qu'il faut qu'on pose ça sur la table. Oui. Vous habitez dans une zone isolée? Vous habitez en ville?
Non, j'habite en région parisienne. Pour être très précis, j'habite à Saint-Ouen.
Donc c'est une région densément peuplée.
Oui, densément peuplée. Maintenant, quand je me promène dans la rue, je vous assure que les gens sont à plusieurs mètres les uns des autres.
Les autres respectent le confinement?
Les autres, oui, certainement. Je sais pas. Oui, effectivement. Bon, il y a des gens qui respectent le confinement. Mais on peut me dire, oui, mais si tout le monde fait comme vous, après on va se retrouver dans je sais pas quel état. C'est bien possible. Mais à ce moment-là, on peut ensuite, je sais pas comment, réglementer ou ordonner la chose pour permettre aux gens de sortir se promener tout en évitant les embrassades et que les gens soient à 50 cm les uns des autres.
Alors écoutez, Olivier, vous avez posé la question quand vous êtes allé faire votre don de plaquettes ce soir et vous dites que vous pourriez
Oui.
Vous avez posé la question, vous avez dit ils ont été un foutu de... Ils ne pouvaient pas répondre, ils étaient plutôt d'accord avec moi. Si
non,
vous permettez...
pas d'accord, mais la personne du SAMU, effectivement, n'était pas foutu, ne peut pas répondre. Mais de la même manière, vous auriez un enfant de 6 ans auquel vous dites, quand vous vous mettez en rang, vous êtes à 1,50 m les uns des autres, et s'il vous dit, mais si je sors avec mon copain dans la cour et que lui est à 6 mètres de moi, je peux pas...
Je crois qu'on voit l'image, voilà. Et je suis certaine que vous n'êtes pas tout seul, mais c'est pour ça que... Comme ni vous ni moi, nous ne sommes médecins et ni policiers, on va poser la question à nos invités de ce soir, si vous voulez bien.
Je vous en prie.
Je les salue. Bonsoir Xavier Lescure.
Bonsoir.
Vous êtes médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et je salue également Christophe Rouget. Bonsoir à vous monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Si mes renseignements sont bons, vous êtes commandant de police à Toulouse. C'est exact.
Oui, je suis commandant de police, c'est exact.
Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous ce soir. On sait très bien que votre temps est précieux. Vous avez entendu notre auditeur, Olivier à Saint-Ouen. Je vais d'abord poser la question peut-être à Christophe Rouget. Tiens, est-ce que vous en croisez beaucoup? Est-ce qu'aujourd'hui, ce samedi, vous en avez croisé beaucoup, des gens comme Olivier?
Malheureusement, et c'est très triste. C'est très triste et je suis en colère aussi de voir ce type de réaction. Parce que nous vivons dans une société... Si tout le monde a la même réaction que notre auditeur, je peux comprendre son raisonnement, mais si tout le monde a le même raisonnement, le confinement tombe de lui-même, donc nous vivons comme avant, et donc il n'y aura plus de limites et donc de propagation de ce virus. Donc nous sommes obligés aujourd'hui, on sait que le nerf de cette guerre, c'est le confinement, et que les policiers sont là pour faire appliquer ce confinement. Pas pour embêter les citoyens, pas pour les incommoder, pas pour les priver de liberté, mais pour garantir leur santé. Et donc je crois qu'il faut que tout le monde, nous avons besoin de civisme, nous avons que tout le monde respecte ces règles, même si elles sont contraignantes, elles sont contraignantes pour tout, si nous voulons gagner cette guerre collectivement. Et je, malheureusement, c'est pour cela que nous sommes obligés de faire des contraventions. Et la Seine-Saint-Denis est un département particulièrement touché par ce non-respect de ces règles. Et quand nous aurons la crise sanitaire qui va arriver dans ce département, nous serons débordés à cause de tels comportements.
Alors, encore une question, si vous voulez bien. Là, on voit, Olivier, en effet, vous citez le cas de la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Mais comment évaluez-vous ? Est-ce que des gens comme Olivier sont plutôt des exceptions ? Ou est-ce qu'ils sont majoritaires ? Ou comment évaluez-vous le confinement sur ces 5 derniers jours ? Parce que quand même, ça a été brutal. Est-ce que les Français s'y font plutôt bien ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt inciviques ?
On a vu une évolution par rapport à la première journée, et dans 98% de la population, le confinement, même s'il est difficile, est fait avec application. Mais nous avons des personnes qui, malheureusement, ne respectent pas ce confinement. Et c'est eux qui mettent en danger l'ensemble de leur famille, eux-mêmes, l'ensemble de leur famille et l'ensemble de nos concitoyens. Et ça, c'est dramatique. C'est pour cela que les policiers sont sur le terrain, pour faire appliquer ces règles, pour nous protéger. Et pour que nous puissions gagner cette règle, il faudra que les forces de l'ordre, elles aussi, soient en bonne santé pour gagner ce marathon dans lequel nous sommes engagés.
J'entends ce que vous dites et on va aussi en parler de la protection des forces de l'ordre. Mais tout d'abord, Xavier Lescure, vous qui êtes infectiologue à l'hôpital Bichat. Olivier, voilà, il ne comprend pas. Il dit que si on se tenait tous à 1m50 dans la rue, ça pourrait aussi bien marcher. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Il répond lui-même à sa question et il y répond très bien. C'est-à-dire que si tout le monde faisait comme lui, on laisserait galoper la dispersion du virus. Donc, on peut être plus intelligent que les autres, mais il faut commencer par s'appliquer à soi-même ce qu'il est bon pour tout le monde. C'est des mesures de collectivisme, de solidarité. Et il vit dans une région à haute densité de population. Si tout le monde faisait comme lui, il serait incapable de garder les distances nécessaires à empêcher la dispersion du virus. Il a une partie avec de lui-même puisqu'il donne ses plaquettes, mais il a l'ambivalence totale de croire qu'il est plus malin que les autres.
Lundi, on va avoir le conseil scientifique qui va donner son avis sur la suite du confinement en France, son étendue, je dirais même son degré de coercition, sa durée. Vous, Xavier Lescure, en tant qu'infectiologue, de ce que vous voyez, des informations que vous échangez, est-ce que le degré de confinement aujourd'hui est suffisant ? Et que dire sur la durée nécessaire ?
Je suis clinicien, hein, mais je pense que le niveau de confinement serait nécessaire s'il était appliqué correctement. Après, c'est toujours... je suis un peu provocateur hein, pour votre auditeur, mais je veux que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous allez vous promener en forêt tout seul, vous ne faites courir aucun risque à personne. Mais quand vous vous promenez à Saint-Ouen et que vous considérez que tout le monde peut faire la même chose, c'est difficile de faire deux poids, deux mesures pour avoir un discours cohérent sur des règles générales. Et donc, il faut être un peu discipliné, il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices, il faut laisser passer la vague, et ensuite, on aura à nouveau des rapports humains, normaux et conviviaux et de proximité. Il faut faire un peu de sacrifice. Je pense que si on applique le confinement comme il est, comme les mesures ont été prises aujourd'hui, ça devrait pouvoir avoir un impact dans les deux semaines qui viennent. Et ensuite, on verra, en fonction là, on a quand même une accélération de la dispersion du virus avec des nouveaux cas à forte cinétique. Hein, ça, c'est vraiment exponentiel.
Qu'est-ce que vous voulez dire par forte cinétique?
C'est-à-dire que là, on a une évolution de l'épidémie exponentielle. On est sur une pente à plus de 45 degrés. Et donc, ça va très, très vite. Et donc, on le dit depuis des semaines. L'enjeu, c'est que tous les gens n'arrivent pas tous au même moment dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. L'enjeu, c'est que 60% de la population s'immunise avec le virus. On sait que l'immense majorité des cas ne sont pas sévère et il faut que la dispersion du pic épidémique soit suffisamment longue pour que les cas graves soient correctement pris en charge dans les hôpitaux.
On a deux syndicats d'étudiants en médecine et d'internes qui ont demandé devant le Conseil d'État, et ça sera décidé demain, un durcissement, un confinement total, c'est-à-dire quelque chose à la chinoise, hein, où on a des transports en commun qui s'arrêtent, et puis le ravitaillement des familles au pied des habitations par du personnel protégé, comme en Chine. Qu'en pensez-vous? D'abord vous, Xavier Lescure, et puis ensuite on fera répondre Christophe Rouget. Xavier Lescure, vous qui êtes infectiologue. Un confinement à la chinoise, dur. Est-ce que c'est nécessaire tout de suite?
En fait, le problème, c'est les conséquences collatérales de ces mesures. C'est-à-dire que quand vous mettez à l'arrêt complet un pays entier, ça a des conséquences sociétales, économiques majeures. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut voir quel est l'impact des mesures mises en place là sur dans l'intervalle de quelques jours. On va avoir l'impact dans 2-3 semaines. Il faut qu'on voit cet impact pour voir s'il faut encore majorer ces mesures. Le problème, c'est que chaque mesure, plus vous augmentez la contrainte de la mesure, plus vous augmentez les conséquences économiques, sociétales. Et c'est la balance du bénéfice à mettre une mesure en place vis-à-vis des risques systémiques, globaux, économiques et sociétés que ça qu'elle peut engendrer.
Christophe Rouget, qu'en pensez-vous? Vous, est-ce qu'il faudrait tout de suite un confinement à la chinoise? C'est possible ça? Ça peut se faire sur le terrain?
C'est compliqué parce que nous sommes dans, et toute l'Europe, ce sont des pays démocratiques, donc on ne peut pas appliquer les mêmes règles que les Chinois ont appliquées sur une partie de leur pays. La population, nos concitoyens ne l'accepteront pas. C'est pour cette raison que peut-être il faudra durcir certaines mesures, comme ça a été fait ce week-end avec interdire certains lieux. Peut-être il faudra encore accentuer la pression pour que les gens respectent les règles qui ont été dictées. Mais l'essentiel, c'est le civisme. Si tous les Français font le confinement comme aujourd'hui il doit se faire, sans essayer de tricher, sans essayer de biaiser, alors nous arriverons à lutter contre ce virus. Effectivement, on peut aller toujours plus loin dans les mesures, mais si les gens ne respectent pas ces mesures, ça sera compliqué. Donc je crois surtout le civisme.
Alors le civisme, justement, ça a l'air compliqué. On a Sandrine à Strasbourg qui est en ligne. Bonjour Sandrine. Sandrine, vous êtes avec nous? Non, Sandrine n'est pas avec nous. Vous êtes là. Vous êtes là. Bah, tant mieux.
Je suis là et je suis tellement contente d'être sur France Inter parce que c'est vous qui m'informez et heureusement que vous êtes là. Que vous qui m'informez.
Mais ouais. Vous êtes à Strasbourg et c'est vous qui allez un peu nous informer parce que vous êtes dans une zone compliquée, ouais. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi est-ce que vous souhaitez nous alerter ce soir?
Là, tout à l'heure dans la rue, en allant faire mes cours, je me suis fait insulter dans la rue parce que j'étais dehors par un type qui était à sa fenêtre derrière son volet et qui m'interpelle caché, hein, et qui me dit « Eh connasse, le confinement, tu connais ?» Voilà, et les comportements de gens un peu dérangés ou qui veulent jouer la police à la place de la police, ou de gens complètement paniqués, j'en ai observé quelques-uns là depuis que ça a commencé, et je me dis, mais comment on gère ça? Et qui fait la loi? Et est-ce que les gens ont le droit d'interpeller les autres? Et apparemment, sur Facebook, c'est plein de choses comme ça, de lynchage public, parce qu'un tel a fait ceci, a fait cela. Il faut modérer ce truc-là. C'est dangereux.
Et qui fait la loi? Christophe Rouget, vous qui êtes du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On a commencé avec le témoignage de quelqu'un qui ne respecte pas le confinement. Là, Sandrine, elle se fait insulter parce qu'elle est dehors par quelqu'un qui croit le respecter mieux que les autres. Est-ce qu'il y a une fébrilité? Est-ce que vous la constatez? Comment ça se passe pour vous, les contrôles?
Bien sûr qu'il y a une fébrilité. La première, d'abord, des choses à savoir, c'est pourquoi votre auditrice était dans la rue, si c'était avec une attestation qu'elle pouvait sortir, je crois. Ensuite, évidemment, c'est pas aux citoyens de faire la loi, mais les citoyens, on le voit, ils ont peur et ils veulent que les autres respectent comme eux ces règles. Et donc, parfois, il y a des comportements qui sont excessifs et on voit bien que ça génère des tensions entre les gens. Concernant les contrôles, ils sont compliqués là aussi, parce que nous avons des personnes, comme votre auditeur tout à l'heure, ou comme d'autres personnes, qui ne les acceptent pas. Donc vous avez les policiers qui sont sur le terrain pour essayer de protéger leur santé et des personnes qui les respectent pas et donc qui parfois même s'attaquent aux policiers, leur crachent dessus. Donc on a des comportements effectivement qui sont dangereux pour les gens et pour les policiers. Et nous savons que nous sommes dans une période qui est très compliquée pour faire appliquer la loi, d'autant que d'autres personnes profitent aussi de cette situation pour commettre des escroqueries, pour voler des masques, pour faire du marché au noir. Donc nous avons un double impératif. Il faut d'un côté que nous assurions les mesures de confinement sur le long terme, parce que nous aurons pour plusieurs semaines, et d'autre part que nous assurions la sécurité des Français par rapport à tous ces escrocs, par rapport à tous ces gens qui essayent de profiter de la situation.
On a des couvre-feux qui ont été mis en place hein, à Béziers, à Valoris, à Menton, à Perpignan. Il y a aussi des drones avec des haut-parleurs qui ont été utilisés par exemple à l'île de Ré, des hélicoptères qui patrouillent au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Tout ça, c'est utile. Est-ce qu'il faut généraliser par exemple les couvre-feux, à votre avis ?
Écoutez, je ne pense pas que le plus de monde en circulation, ce soit la nuit. Je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est les maires qui décident en fonction des lieux, en fonction des situations, s'il faut adapter la sécurité des citoyens de leur commune. C'est à eux de le juger. Mais ce qui est important, c'est pas la nuit essentiellement que les gens se déplacent, qu'il y a des gens dans les transports, c'est la journée. Donc je crois que surtout, c'est toute la journée que les gens doivent respecter les règles du confinement. Ensuite, l'utilisation de drones, l'utilisation de tout ce qui peut faire de la prévention pour que les gens respectent les règles, va dans le bon sens.
Xavier Lescure, on a une question par mail de Catherine. Vous qui êtes infectiologue, se dirige-t-on, puisque Christophe Rouget disait que la population était inquiète, et c'est vrai, hein, on a tous cette anxiété, se dirige-t-on, demande Catherine, vers une situation italienne, le pays qui compte le plus de décès au monde?
Je ne crois pas. Même si on a une éthique, c'est-à-dire une progression de la maladie, quand on regarde les chiffres, la pente n'est pas très loin de celle de l'Italie, mais le taux de mortalité, en tout cas sur le dénominateur qui est constitué des cas qui sont documentés, qui sont confirmés par des tests virologiques, cette mortalité est 3-4 fois moins importante. Je pense que la situation n'est pas comparable au-delà de la progression pour deux raisons. La première, c'est que on a eu une première vague avec des premiers cas fin janvier et qu'on a eu le temps de se préparer à la deuxième vague, ce qui n'a pas été le cas de l'Italie qui s'est fait vraiment prendre par surprise. Et puis la deuxième grosse différence, c'est que l'épidémie en France est beaucoup plus éparse et beaucoup plus étalée géographiquement. En Italie, ça a démarré dans un secteur beaucoup plus ramassé et les collègues italiens se sont fait complètement déborder dès les premiers jours de l'épidémie avec des saturations des réanimations, des saturations des systèmes, des services hospitaliers, pardon. En France, on a, pour le moment, avec une cinétique très forte, on n'a pas de saturation, sauf dans quelques régions, notamment dans le Grand Est. Mais c'est beaucoup plus gérable et on a eu le temps de s'adapter, d'anticiper, de répartir la charge plus largement.
Pascal est en Corse et il a appelé le 01 45 24 7000. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, vous êtes bienvenu.
Je voudrais d'abord vous dire tout de suite que je respecte à la lettre toutes les consignes de confinement et d'hygiène personnelle pour ne pas ou attraper ou communiquer un virus que pour l'instant je ne sais pas si je l'ai ou pas. Mais par contre, j'ai une amie qui vit en Chine et qui trouve aberrant qu'on puisse nous faire sortir sans masque, que ce soit nous les citoyens, même les forces de police qui interviennent côte à côte dans les mêmes voitures sans masque. Et que, en fait, le réel problème est, bon, eux, en plus, quand ils rentrent, par exemple, dans des supermarchés ou des bureaux de poste ou des choses, on leur prend la température systématiquement. S'ils ont de la fièvre, ils sont conviés, bien sûr, avec les méthodes peut-être chinoises un peu plus policières, musclées, à se rendre dans un hôpital et à être soignés. Nous, en fait, ce qu'on nous dit pas, c'est qu'on manque de ce matériel. Et que plutôt que de nous dire, mais ça s'attrape par les mains, comme notre ministre de la Santé avait bien voulu le dire, que ça sert à rien les masques, ça s'attrape par les mains. Seulement les postillons partent de la bouche, ils partent pas des mains. Mmh. Et ils se déposent sur les rampes, sur les poignées de porte, sur les chariots des supermarchés. bien sûr que si on fait attention, on désinfecte bien, mais il faut protéger sa bouche. Il faut que tout le monde protège sa bouche de ces postillons qui sont porteurs du coronavirus. Et je pense que l'État n'est pas aujourd'hui assez honnête pour dire on est désolé, on manque de masques, on va distribuer des masques vite, vite, vite. Parce que tous les jours, c'est des centaines de cas de plus, peut-être des milliers, on ne sait pas. Mais pour les Chinois, on a une situation en Europe qui est aberrante parce qu'on ne nous oblige pas à sortir avec des masques.
Merci,
et pour eux,
Pascal.
C'est aberrant. Voilà.
Merci pour votre question. Il y a deux choses. Alors, la principale question de Pascal, ça porte sur les masques, Xavier Lescure. Est-ce qu'on ne devrait pas tous porter des masques? Et puis après, il a dit aussi Pascal, et moi je ne sais pas si je l'ai, c'est la question des tests qui vient après. Xavier Lescure, sur les masques, est-ce qu'on devrait tous en porter?
Dans un monde idéal, on se met tous sous un bocal et puis on attend que ça passe.
Et dans un monde idéal, on n'a pas assez de masques. Dans un monde pas idéal, on n'a pas assez de masques, c'est ça l'idée.
Non, mais c'est sûr qu'en gros, il y a des flux tendus au niveau des masques. C'est sûr qu'on est un peu tous angoissés, que c'est une crise, que la situation est grave, que Emmanuel Macron nous a dit qu'on était en guerre et je crois qu'il a complètement raison. Donc les gens sont angoissés, sont stressés. Mais je pense que en France, il y a une vraie transparence. Et par contre, ce qui est difficile à entendre et à comprendre, c'est que les choses évoluent de façon extrêmement rapide. Et ce qu'on dit lundi n'est peut-être plus vrai le mercredi, ou en tout cas est à moduler. Donc les choses vont très vite. Et j'entendais sur vos ondes il y a quelques minutes quelqu'un qui s'étonnait, un responsable politique qui s'étonnait que ce qu'on a dit il y a 10 jours soit contredit. Eh ben, c'est pas du complot, c'est pas qu'on cache les choses, c'est que les choses évoluent à toute vitesse. Et il faut se mettre à l'esprit que c'est pas parce qu'on a dit blanc lundi qu'on peut pas dire gris clair le mercredi.
Mais est-ce que
cache quoi que ce soit.
Mais est-ce que dans votre hôpital, il y a assez de masques, par exemple, pour les soignants?
Je suis un peu long parce que vraiment important. Il faut que les gens se fassent confiance les uns les autres. Il faut arrêter la parano et le complotisme habituel. On sortira plus fort de cette crise si on reste unis.
Oui, mais alors,
Vous les portez du matin au soir, si vous les portez dans la rue alors que vous respectez des distances de sécurité, ça ne sert à rien. Et par contre, tous les masques que vous portez dans la rue qui ne servent à rien seront des masques qui ne pourront pas être utilisés pour les soignants ou pour les gens qui sont malades pour éviter de transmettre le virus à une personne qui ne sera pas encore malade. Donc, il faut réguler. Donc, on n'est pas dans un monde idéal. Les stocks de masques ne sont pas infinis. Il faut les réguler. Il faut essayer de comprendre les modes de transmission. C'est effectivement par gouttelette, c'est-à-dire que c'est des postillons, et c'est effectivement par contact, mais ça a été dit depuis le début. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on apprend au sujet de la maladie tous les jours, que les choses s'affinent dans le temps et qu'on est de plus en plus précis sur les modes de transmission. On n'a pas caché la vérité aux gens au début, c'est juste que le niveau d'information augmente avec le temps.
Mais alors maintenant, Christophe Rouget, vous avez peut-être un dialogue à engager là avec Xavier Lescure, vous qui êtes commandant de police, qui êtes du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On entend des policiers, peut-être eux qui aimeraient pour interpeller les gens, exercer le contrôle, avoir des masques, si j'ai bien compris.
Je crois que votre auditeur, il a fait une analyse tout à fait cohérente. Il y a un mois, le ministère de la Santé préconisait dans ses fiches le port du masque pour éviter la propagation de l'épidémie. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les pouvoirs qui se sont succédés ont commis des erreurs sur la gestion. Nous n'en avons plus. Donc nous sommes dans une guerre sanitaire avec des problèmes de moyens pour gagner cette guerre sanitaire. Et aujourd'hui, oui, il a raison. Si on veut gagner, il y a des médecins qui disent aujourd'hui, sans les forces de l'ordre, la guerre est perdue. Mais pour assurer cette guerre, il faut que la santé des policiers soit assurée pour tenir dans les semaines qui viennent, pour faire respecter ces règles. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On nous dit ne portez pas les masques. On nous dit finalement utiliser avec parcimonie. La priorité, nous la comprenons, elle est pour les personnels de santé. C'est absolu. Et nous avons besoin d'eux. Mais là, on voit bien que le conseil scientifique, et tout à l'heure, le ministre de la Santé l'a dit, va décider mardi si on peut donner ces masques aux à d'autres métiers comme les forces de l'ordre, comme d'autres métiers qui sont importants pour gérer cette crise. Mais ça sera certainement trop tard, parce qu'aujourd'hui, c'est l'hécatombe parmi les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce que nous travaillons en équipe, par exemple à plusieurs dans un véhicule, parce que nous effectuons des contrôles. Et je suis en colère quand je vois sur la voie publique des policiers qui font des contrôles, qui récupèrent dans la main une attestation d'un conducteur, qui lui redonne et qui n'ont pas de masque. Ils sont eux-mêmes possiblement contaminés, ils peuvent être aussi un vecteur de contamination. Donc on a un sentiment de cacophonie qui règne quand même au sein du ministère de l'Intérieur, et on voit bien que les directives sont longues à se mettre en marche, parce que la raison, elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de masques, on n'a pas assez de gel, et que ben on gagne du temps, on essaye de trouver des mesures qui permettent, en attendant de faire face à ça, mais qu'on est sous-dimensionné, clairement.
Nous avons au téléphone sonne la question de Marie-Jo. Bonsoir Marie-Jo, bienvenue.
Oui, bonsoir. Alors, merci de prendre ma question. Elle est toute simple, hein. Voilà. Et elle provoque un peu un différend en famille. Donc, j'aimerais avoir l'avis éclairé de vos interlocuteurs. Donc, nous avons reçu un appel téléphonique ce matin de la part d'amis qui nous ont dit il faisait très beau hier et nous avons joué à la belote avec les voisins. On a bien pris soin de rester autour de la table à une distance de 1 mètre les uns des autres. On avait le gel hydroalcoolique au moment de prendre les cartes. Mais voilà, il y avait là des personnes qui étaient issues de 3 maisons différentes, voisines, hein, dont un couple de personnes très âgées et une autre personne qui arrivait de la région du Grand Est depuis peu de temps. Ah. Voilà, donc on n'est pas tous d'accord, mais il me semble que c'est déraisonnable. Je voudrais avoir l'avis du médecin.
Je vous remercie. Merci à vous, Marie-Jo. L'avis de l'infectiologue à l'hôpital Bichat, vous auriez joué, vous, à la belote, Xavier Lescure, avec des voisins, et dont certains venaient du Grand Est, alors, même avec du gel et 1 mètre de distance.
Alors, elle a très bien résumé les éléments clés pour apporter la réponse. La première chose, c'est qu'il y avait quelqu'un dans le groupe qui venait du Grand Est, donc qui venait d'une zone de forte épidémie. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il y avait quelqu'un à risque de faire une forme grave avec une personne âgée. Et donc là, clairement, il est fortement déconseillé de se regrouper entre des gens potentiellement contaminants et des gens potentiellement à risque de forme sévère.
Donc
après, Là, clairement, je suis entièrement d'accord avec l'auditrice. Il ne faut pas jouer à ça, par rapport notamment aux personnes âgées.
Xavier Lescure, on a une autre question, il y a la question des masques, il y a la question du respect du confinement, et puis il y a cette question des tests de dépistage. Est-ce que il serait temps, est-ce qu'il aurait été temps, est-ce qu'on devrait faire des tests de dépistage à grande échelle? Ça a marché dans d'autres pays. Est-ce qu'on doit y venir?
Alors ça a marché dans d'autres pays, mais il y a dans ces pays-là, il y a d'autres éléments qui peuvent avoir aussi un impact favorable. Le fait de tester tout le monde, d'abord, si vous testez les gens qui ne sont pas symptomatiques, ça n'a aucun intérêt. Les gens qui sont aussi symptomatiques, c'est bien.
C'est-à-dire peu de symptômes, hein, peu aussi symptomatiques,
pardon,
peu de symptômes.
Excusez-moi, oui. Qui n'ont pas de symptômes ou qui ont des symptômes frustres, qui n'ont pas de grosse fièvre ou juste un petit rhume. Ça peut être intéressant sur les premières phases de la maladie pour éviter les transmissions sur des chaînes de transmission bien identifiées pour remonter, pour faire l'enquête autour du cas, etc. Dans une phase épidémique, je suis pas certain, mais je suis pas épidémiologiste, mais je pense que ça n'a plus d'intérêt puisqu'on n'est plus à compter les cas et à faire l'enquête autour du cas. Il faut prendre des mesures générales pour limiter la vitesse de progression. Si vous testez tout le monde, vous allez dépenser... Nous, en France, par exemple, il y a des flux tendus de masques, il y a des flux tendus de tests, il y a des flux tendus de personnel médical, il y a des flux tendus de lits, etc. Donc, il faut faire très attention. À chaque fois que vous mettez de l'énergie et du temps et de l'argent quelque part, par exemple sur les tests, c'est des choses que vous ne pourrez pas mettre ailleurs. Donc, tester tout le monde, c'est comme tout à l'heure, c'est dans un monde idéal. Pourquoi pas ? Mais on n'est pas dans un monde idéal, on est dans un système où les choses, les ressources sont pas infinies. Et je pense qu'on est dans une phase de la maladie, de l'épidémie, pardon, où il serait illusoire de tester tout le monde. C'est plus, on n'est plus à cette phase-là de l'épidémie.
Christophe,
à mon avis, c'est dépassé. On est au-delà de ça.
Alors, qu'est-ce que vous attendez, si c'est dépassé, qu'est-ce que vous attendez de savoir, vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses? Est-ce que vous attendez un médicament? Est-ce que vous attendez un vaccin? Qu'est-ce qui ferait progresser notre combat? Si ce n'est pas les tests, puisqu'on ne peut pas, on est au-delà, et si ce n'est pas les masques, parce que pour l'instant, on est à flux tendu.
Oui, vous avez, c'est un traitement. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est que les gens graves n'arrivent pas tous au même endroit en réanimation, au même moment en réanimation. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un traitement.
Mais quand est-ce qu'on peut l'espérer?
La question est vraiment fondamentale aujourd'hui, puisqu'il y a une discussion très vive au niveau des traitements, avec des questions autour de l'hydroxychloroquine, du plaquenil. Aujourd'hui, il est clair qu'aucun médicament n'a fait preuve de son efficacité et qu'il faut tester les pistes thérapeutiques dans des essais randomisés, c'est-à-dire avec des méthodes d'évaluation les plus rigoureuses qu'il soit, pour avoir une réponse formelle. Et dans période épidémique, la recherche clinique bien conduite fait partie de la réponse, fait partie de la riposte. Et donc aujourd'hui, l'urgence est de faire de la recherche clinique robuste pour avoir le plus rapidement possible une réponse à la question des traitements.
Puis
effectivement, vous avez raison, les vaccins aussi, c'est un enjeu capital, mais ceux qui cherchent sur les vaccins nous disent que on a des délais qui sont
qu'on parle de quoi,
plusieurs mois.
Plusieurs mois. Je vais poser, il nous reste une poignée de secondes si vous voulez bien, Christophe Rouget. Qu'espérez-vous, vous, en quelques mots, dans les prochains jours? Quelle est l'urgence pour le maintien de la paix, les forces de l'ordre?
L'urgence, c'est que les gens appliquent les mesures pour que nous puissions passer le pic de la crise avec le moins de victimes possible. Mais on voit bien qu'on paye la pénurie des tests, parce qu'on en aurait besoin pour éviter qu'un policier infecte tous ses collègues dans un service et que le service soit ensuite fermé. On voit bien qu'on paye des années où l'État n'a pas fait ce qu'il fallait pour les services de santé, où on a diminué les personnels, le nombre de lits, diminué le nombre de policiers, et aujourd'hui on le paye cash, malheureusement. Et donc il faut qu'on arrive pour les semaines à venir à monter en puissance, par exemple avec les réserves sanitaires, les réserves de police et militaires, qui devront venir en renfort. Mais là aussi, l'État, comme c'était du soutien, que ce n'était pas très visible, n'a pas mis les moyens, n'a pas organisé ses réserves.
Christophe.
Donc, nous sommes inquiets, il faut que nous allions vite pour avoir de nouvelles mesures pour protéger les policiers.
Christophe Rouget et Xavier Lascure, merci à tous les deux d'avoir été dans le téléphone sonne.